Chapitre 45. Un appel du Canada. Deux lettres très importantes m'avaient été adressées de Québec et de Montréal au commencement de janvier 1859. La première était signée d'environ 500 noms bien connus. La seconde portait les signatures d'une centaine de Canadiens français catholiques romains de cette dernière ville. C'étaient des invitations pressantes d'aller leur exposer les motifs qui m'avaient poussé à quitter l'Église romaine. Bien des fois, avant d'avoir reçu ces lettres, j'avais eu la pensée qu'il était de mon devoir d'aller au Canada attaquer Rome dans sa propre forteresse. Mais j'avais remis ce travail à cause des difficultés et des dangers qui m'y attendaient. On ne pourrait probablement pas trouver dans le monde entier deux autres endroits où le cléricalisme est aussi fort qu'à Québec et à Montréal. Aller attaquer ce pouvoir géant, là où il est protégé par ses citadelles les plus imprenables et muni de ses armes les plus terribles, me semblait une pure folie, un suicide certain. Telle était ma manière de raisonner jusqu'au moment où je reçus ces deux lettres. Mais je dus modifier et changer mes opinions après leur réception. Comment pouvais-je fermer l'oreille aux cris de ces âmes en danger qui me demandaient si ardemment d'aller leur donner le pain de vie? À la voix d'un Macédonien entendu dans une vision nocturne, Paul avait tout quitté pour y répondre. N'était-il pas de mon devoir d'aller, quand j'étais appelé, non par une voix, mais bien par des centaines de voix et d'une manière aussi manifeste? Après avoir reçu de M. Demers, notre évangéliste le plus capable, et de M. Gauthier, le principal professeur de notre institut, l'assurance qu'il me remplacerait le dimanche pendant mon absence, je me déterminai à partir la dernière semaine de janvier pour aller travailler un mois ou deux au Canada. Je ne parlerai pas de l'appréhension des habitants de Sainte-Anne quand je leur annonçai ma résolution du haut de la chaire le dimanche suivant. Avec larmes, ils me supplièrent de ne pas aller m'exposer à des dangers aussi évidents au Canada. Je leur répondis que je sentais que c'était la volonté de Dieu que je fasse ce voyage et que je m'en remettais à lui du soin de me protéger. Ils priaient pour moi nuit et jour pendant mon absence et je reviendrai à Sainte-Anne plein d'une nouvelle force après avoir répandu la bonne semence dans notre cher Canada où le maître la ferait croître et produire le centuple dans le cœur de leurs frères et de leurs amis qui la désiraient ardemment. En route pour Montréal, je dus m'arrêter un jour à Toronto. Je n'y étais pas depuis 3 heures que je recevais du sous-secrétaire principal, M. Parent, la lettre suivante. Son Excellence, le gouverneur, dans une conversation privée hier, à votre sujet, a exprimé le désir que j'essaie de vous dissuader d'aller dans la province de Québec prêcher contre l'Église romaine. Votre présence là-bas, dans un tel but, amènera probablement des émeutes que le gouvernement ne sera pas assez fort pour prévenir ou contenir. Vous savez comment Gavazzi, il n'y a pas longtemps, faillit être écharpé et combien de personnes furent tuées et blessées autour de lui. Que ce déplorable fait vous enseigne à être plus prudent. Ne soulevez pas dans la province de Québec des troubles et des conflits dont vous pouvez être la première victime. Permettez-moi de vous donner le même avis. Ne fermez pas l'oreille à la voix de votre ami tout dévoué. Étienne Parent, sous-secrétaire. Je répondis. Cher Monsieur Parent, veuillez accepter pour vous-même et donner à son Excellence l'assurance de ma gratitude pour l'intérêt que vous prenez à ma sûreté. Mais rappelez-vous que je suis maintenant un soldat du Christ, enrôlé sous la bannière de la croix. S'il me faut verser mon sang et mourir en combattant pour son triomphe dans notre cher Canada, ce sang n'aura pas été versé en vain et cette mort sera la plus désirable que je puisse souhaiter. Tout à vous, Charles Chinigui. De Toronto à Montréal, je reçus, à différentes gares, des télégrammes de menaces m'annonçant que je devais être attaqué à mon arrivée. Mais comme ces menaces n'étaient signées d'aucun nom connu, je n'y fis aucune attention, pensant qu'elles étaient seulement destinées à m'effrayer. Je devais cependant voir que le danger était réel quand j'arrivais à la gare de Montréal le 1er février. Il y avait là une foule énorme, mais silencieuse, telle que je n'en ai jamais vue auparavant à aucune gare, et qui, évidemment, attendait avec anxiété l'arrivée de quelqu'un. Soupçonnant que c'était à moi qu'on voulait tous ces spectateurs, je pensais qu'il était prudent que je me fisse aussi petit que possible. J'avais un par-dessus de fourrure, je l'arrangeais de manière à cacher complètement mon visage. On ne me voyait que les yeux. Dans l'espoir que personne ne me reconnaîtrait, je descendis du train et fis 2 ou 3 pas à travers cette foule où chacun murmurait autour de moi. « Où est-il ? Où est-il ? » L'accent de ses voix, aussi bien que l'allure de ces individus, m'apprirent que j'étais au milieu d'Irlandais animés de fureur. Tous étaient armés de bâtons qu'ils brandissaient au-dessus de leur tête. Il va sans dire que cette constatation me rendit décidé plus que jamais à garder l'incognito. Je me hâtais de traverser la foule aussi vite que possible, mais elle était si dense qu'il était difficile d'avancer. Mon anxiété augmentait par suite à des questions incessantes, tout d'abord murmurées à voix basse, mais qui ne tardèrent pas à être proférées à haute voix. « Où est-il ? Où est-il ? Le maudit apostat ! » À la fin, une voix forte se fit entendre à une assez grande distance de moi. Elle criait en français. « Le père Chiniki est-il ici ?» Je l'avoue à ma honte. Cette voix fit passer un frisson de terreur à travers tous mes membres, car j'étais sûr que la multitude qui m'entourait était composée de catholiques romains irlandais, dont beaucoup étaient ivres, qui étaient là évidemment pour me tuer. Ma seule chance de salut était de garder l'incognito jusqu'à ce que je puisse trouver un traîneau pour me conduire à l'hôtel. Le premier cri, « Le père Chiniki est-il ici ?» avait été suivi d'un silence de mort, mais des yeux sanguinaires, tels que je n'en avais jamais vu, regardaient attentivement de tous côtés, pendant que les voix remplissaient l'air de cris furieux. « Où est-il, le maudit apostat ?» Tout en priant mon Dieu de me protéger et de m'entourer, j'essayais de plus en plus de me frayer un passage à travers cette foule houleuse lorsqu'une autre voix se fit entendre. Demandant d'un accent énergique, « Est-ce que le père Chiniki n'est pas là quelque part ?» Mais cette fois, la voix était tout près de moi, à moins de deux pas. Bien que je n'eusse aucune idée que la voix fût celle d'un ami, et quoique je fusse encore sous l'impression que toute la foule était composée de gens qui avaient soif de mon sang. J'eus tellement honte de ma poltronnerie que je répondis d'une voix encore plus forte. « Oui, le père Chiniki est ici. Que lui voulez-vous ?» La dernière syllabe était à peine prononcée que je vis une foule de gens se précipiter autour de moi de tous les côtés, avec la rapidité de l'éclair. Mais ils poussaient toute résistance avec une telle énergie que rien ne pouvait les arrêter. Ceux qui n'étaient pas dans le secret de ce mouvement tombaient de tous côtés, comme l'herbe qui fléchit quand le torrent impétueux se précipite soudainement du haut de la montagne. Absolument incapable au premier abord de comprendre ce que tout ce nouveau tumulte voulait dire, je restais un moment surpris et tout décontenancé. Mais le mystère me fut bientôt expliqué quand une voix amie murmura à mon oreille. « Ne sortez pas de nos rangs. Nous sommes des amis accourus pour sauver votre vie menacée par une troupe d'Irlandais ivres et furieux qui veulent vous assassiner. » En moins d'une minute, je me trouvais entouré d'une triple ligne de braves compatriotes canadiens-français bien armés. Sachant qu'un complot était tramé dans les basses classes des catholiques irlandais pour me tuer quand j'arriverais à la station, 75 de mes jeunes compatriotes, intelligents et intrépides, avaient formé une association secrète sous le nom de Francs Frères. Ils s'étaient exercés de la manière la plus parfaite pendant plusieurs jours afin d'être capables de pousser à travers la foule avec la rapidité de la foudre et la puissance d'un ouragan irrésistible et de former ainsi trois cercles impénétrables autour de moi. Je sentis que mon Dieu avait jeté des regards de pitié sur son serviteur. Il avait choisi ses chers jeunes compatriotes comme des anges de miséricorde pour sauver ma vie, à l'heure même où tant de gens voulaient me la ravir. Je l'en bénis du fond de mon cœur. Je me sentais absolument en sûreté au milieu de ces trois cercles humains. J'aurais plaint les pauvres Irlandais qui auraient essayé de les franchir pour me frapper. Mes généreux amis avaient préparé un grand nombre de traîneaux pour nous conduire au Saint-Laurence Hall, où ils avaient arrêté les meilleures chambres pour moi, y compris le magnifique salon, au prix de $50 par jour. L'un des chefs de la bande de mes jeunes compatriotes n'était autre que Gibor, dont l'enterrement devait faire tant de bruit quelques années plus tard. Quelle ne furent pas ma surprise et ma joie quand ses amis me donnèrent leur nom après notre arrivée à l'hôtel. Ils appartenaient à l'élite de la société de nos familles canadiennes françaises. À une exception près, tous appartenaient à l'Église romaine. Pour mieux comprendre mes sentiments de surprise et de gratitude, que le lecteur se rappelle que le dimanche précédent, l'évêque de Montréal avait fait lire un mandement dans toutes les chaires défendant aux catholiques romains d'avoir rien à faire avec moi. Me parler ou m'écouter était un crime damnable pour lequel il serait excommunié. Et ce mandement avait été publié dans tous les journaux quotidiens français. la conduite de ces chers compatriotes qui, en dépit de toutes ces menaces, avaient exposé leur vie pour me protéger et qui m'entouraient dans ce splendide salon, faisait anticiper l'assurance d'une victoire plus complète sur le romanisme que je ne l'avais espéré. Ils restèrent avec moi jusqu'à minuit. Ils me quittèrent alors, après s'être concertés avec moi, sur les mesures de sécurité à prendre pendant les jours suivants. Mais, avant de me quitter, ils m'accordèrent la faveur que je leur demandais, de lire avec eux le 103e psaume. « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Et quand je fus seul, je lus de nouveau les expressions si simples et si sublimes de la gratitude de David pour les miséricordes de Dieu. De fait, où pouvais-je trouver des paroles plus appropriées pour exprimer ce que je ressentais après avoir échappé à un tel danger et avoir été protégé d'une manière aussi merveilleuse à l'heure la plus critique? Mon cœur était plein de l'espoir que, bien que mon travail évangélique fût entouré de grands dangers pour ma vie, il serait cependant béni. Tous les échos des plaines et des montagnes du Canada apportaient à mon âme les paroles du Sauveur. « Ne crains point, je suis avec toi. » La dernière pensée de mon cœur et les dernières paroles de mes lèvres dans cette nuit mémorable furent « Le Seigneur est mon berger, de qui aurais-je peur ?»